Bonjour, bienvenue dans Vie de famille. Quand on est au lycée, la plupart du temps, le monde professionnel est très flou, voire mystérieux. Alors, envisager la vie professionnelle ne fait pas partie des préoccupations immédiates, c'est le moins qu'on puisse dire. Cependant, une fois entré dans la vie professionnelle, il faut bien reconnaître qu'elle est de moins en moins linéaire et qu'il est bien fini le temps où l'on pouvait vivre toute sa carrière dans la même entreprise. Aujourd'hui, on va de changement de poste en changement d'entreprise, de changement de région en changement de métier. Alors, comment s'adapter à ce monde qui évolue de plus en plus vite, avec des technologies nouvelles et des demandes qui se déplacent? Pour répondre à toutes ces questions, que ce soit avec nos jeunes ou nos moins jeunes, j'ai invité Valérie Poubelle. Valérie Poubelle, bonjour.
Bonjour.
Alors, on va rappeler qui vous êtes. Votre métier à vous, c'est quoi ?
Alors moi, je suis psychologue du travail et thérapeute TCC, donc thérapie cognitive et comportementale. Donc je travaille à la fois sur l'orientation professionnelle, mais aussi le projet de vie et toutes les problématiques que l'on peut rencontrer dans sa vie personnelle et professionnelle.
Alors on va commencer, si vous en êtes d'accord, par nos enfants. Parce qu'il faut bien reconnaître, comme je le disais en introduction, que si quelques jeunes ont une idée très précise de ce qu'ils veulent, et puis, ma foi, y arrivent sans trop de soucis, ils sont nombreux si ceux qui, par contre, n'ont pas du tout d'idée de ce qu'ils vont faire. Ça paraît très vague. Qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là et à leurs parents ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de s'intéresser justement très tôt à l'orientation professionnelle, donc le plus tôt possible. On peut se faire aider par certains enseignants qui se préoccupent de la question, mais aussi par des psychologues de l'orientation. Et puis, très vite, essayer de faire le clair un petit peu sur ce qui nous intéresse dans la vie, ce qui peut être une orientation possible avec les parents, avec les éducateurs que sont les enseignants et certains professionnels. Oui. Et c'est vrai que c'est pas facile, en effet.
Non, c'est bien difficile. Alors, on va préciser tout ça. Mais quand vous dites le plus tôt possible, vous diriez quel âge ?
Bah, je pense que dès la classe de seconde, hein, on peut déjà se poser des questions. D'ailleurs, les enseignants commencent à poser des questions dès la première et la terminale ensuite. Ça sera obligatoire.
Oh, mais à ma connaissance, c'est même antérieur à ça, puisqu'il y a beaucoup de collèges qui organisent des journées, de stage, qui paraît un petit peu gros comme mot pour des enfants de cet âge-là, mais qui vont dans des entreprises de tout type. Moi, ça m'apparaît toujours un peu tôt, mais il y a des enfants à qui ça convient très bien.
Alors c'est vrai que pour ma part, je commence à accompagner les jeunes à partir de 16 ans et c'est vrai qu'il m'arrive en tant que psychologue du travail d'accueillir des jeunes de collège qui viennent un petit peu passer du temps, voir ce que c'est que ce métier de psychologue. Alors je pense qu'en effet, faire des expériences sur le terrain, c'est ce qu'il y a de mieux pour ces jeunes-là qui vont pouvoir commencer à se poser des questions et à se faire une représentation des métiers, parce que la difficulté elle est là, entre le fantasme du métier et ce qu'on en attend et la réalité. Il y a souvent un grand écart qu'il convient de combler en ayant ce genre d'expérience.
Oui, et d'ailleurs, pour parler d'un métier que tout le monde connaît, entre guillemets, alors mon fils va être médecin, avocat, ma fille va être infirmière, sage-femme, secrétaire ou que sais-je encore. Et puis, en fait, on ne sait pas du tout ce que ça recouvre au juste.
Oui, en effet, ça c'est très difficile de se faire une représentation. Et puis, plus le métier est complexe en termes d'opérations, et de traitement d'informations, développement des compétences, plus c'est difficile de se faire une idée de ce qu'est le métier. Mais déjà, aller sur le terrain avec des professionnels, ça permet de se faire une représentation assez précise. Mais c'est vraiment aller sur le terrain qui est important.
Alors, est-ce que ça pourrait être une invitation plutôt aux parents qui nous écoutent ou aux jeunes éventuellement, de saisir toutes les occasions d'aller à la découverte de n'importe quel métier ? Pas seulement pour se dire « tiens, je pourrais faire ça », mais simplement en quoi ça consiste et puis le monde du travail, c'est quoi finalement ?
Oui, c'est en effet une très bonne idée. D'ailleurs, il y a tout un courant canadien qu'on appelle l'activation du développement vocationnel et personnel, autrement appelé en notre code ADVP, qui travaille là-dessus, où les jeunes vont interviewer des professionnels, aller sur le terrain, passer du temps. Et c'est vraiment cette confrontation à la réalité qui va éveiller des vocations ou se faire l'idée qu'il faut aller vers une autre voie possible.
Alors, J'aime beaucoup quand vous dites confrontation au réel, parce que justement, il faut bien reconnaître que nos petits chéris, mettent parfois un petit peu de temps pour mûrir, le réel, ça ne représente pas grand-chose pour eux. C'est encore des enfants, souvent. Et du coup, le monde professionnel, ben, c'est pour ça que ça leur paraît un peu lointain, on va dire. Donc, de voir concrètement ce que peut être tel ou tel métier, c'est une chose. Mais est-ce que c'est par là qu'on commence ? Parce que finalement, savoir précisément ce que fait un chirurgien cardiaque, ça peut être très intéressant. Est-ce que ça me correspond bien ? C'en est une autre.
Oui, alors en effet, il y a tout un repérage à faire à partir de tests qu'on fait en général en troisième, où on va repérer les intérêts, les habiletés possibles et potentielles. Mais c'est vrai que plus on est jeune, plus c'est compliqué à mesurer. Mais c'est quand même important d'essayer déjà de faire une première mesure et de partir des centres d'intérêt de l'enfant, qui ne sont pas uniquement, contrairement à ce qu'on croit quand on les questionne bien, Internet et la télévision. Hein, il y a d'autres centres d'intérêt qui peuvent être creusés. Et c'est à partir de ces centres d'intérêt-là et des matières qu'ils aiment bien à l'école que l'on peut commencer à faire des repérages. Mais ça demande un travail important, plutôt avec des professionnels. Et ce n'est pas évident de trouver les professionnels qui peuvent aider là-dessus.
Oui, alors ça, c'est justement une question que se posent sûrement beaucoup de parents. C'est pas évident, comme vous dites, de trouver un professionnel. À qui peut-on s'adresser ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut s'adresser, si possible, en conseiller d'orientation qu'on appelle les COP dans les lycées. Il y en a normalement dans tous les lycées publics. Dans les lycées privés, il faut se rapprocher du professeur principal qui peut éventuellement donner les coordonnées d'un centre de consultation psychopédagogique. Et puis, il y a aussi, on l'oublie souvent, toutes les missions locales qui accueillent les jeunes de 16 à 25 ans. Dans chaque ville, chaque grande ville, on a une adresse de mission locale sur laquelle on peut travailler sur le projet professionnel et personnel.
Et il n'est jamais trop tôt pour s'y mettre, vous le disiez. Ça veut dire que mon petit chéri qui vient de rentrer en seconde et pour qui le monde professionnel est une espèce d'ovni vraiment non identifié, il peut quand même se rendre à la mission locale en disant « mais moi, je sais vraiment pas quoi faire. Bon, d'accord, je vais passer mon bac dans 3 ans, mais déjà pour choisir la bonne première, tiens, c'est peut-être pas idiot. »
Oui, alors il peut éventuellement aller à la mission locale. Alors évidemment, les files d'attente sont parfois importantes.
Ne découragez pas les parents, soyez gentils.
Mais ça vaut quand même le coup d'y aller. Après, si vraiment le calendrier fait que ce n'est pas possible dans le temps imparti, il est toujours possible de consulter éventuellement des psychologues du travail, des psychologues de l'orientation dans des cabinets privés en ville. Alors ça a un coût, bien sûr, mais ce qu'on oublie, c'est que le psychologue, en général, n'est pas du tout fermé à la possibilité de recevoir 2 ou 3 jeunes en même temps, ou 4, pour faire des séances de travail. Voilà, il suffit de demander aux mamans et aux papas des petits copains si on ne peut pas faire une séance en groupe. Je pense que ça sera assez facile d'organiser ça. Donc c'est possible, à mon avis, de travailler là-dessus. Simplement, comme il n'y a pas de structure identifiée facilement, c'est vraiment en allant sur Internet, sur les pages jaunes, en cherchant qu'on peut trouver des psychologues qui travaillent dans ce domaine-là.
Oui, c'est toute la difficulté des parents. Enfin, c'est une partie de la difficulté, parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, le petit jeune ou la petite jeune fille, d'ailleurs, qui vient de rentrer en seconde et qui est vraiment à des lieux de réfléchir à tout ça, lui dire, mais tu sais, il faudrait quand même que tu saches un petit peu où tu vas atterrir un jour. Et au moins, peut-être que tu commences à essayer de connaître tes goûts, justement, autrement qu'en disant à maman, j'ai horreur de faire la cuisine, ou je ne sais pas. Mais du coup, comment les accompagner dans la durée ? C'est ça, peut-être, aussi, qui est difficile.
Alors, pour les parents, je pense qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire, même si parfois, c'est difficile. Hein, et qu'eux aussi peuvent se faire aider. Hein. Comme je le disais, il y a des professionnels qui pourront les aider utilement. Et se dire aussi que parfois, ça prend du temps. Qu'il faut travailler les centres d'intérêt, essayer plein de choses, justement, d'activités différentes, de voir ce qui les intéresse en dehors de l'école aussi, hein, et d'essayer de créer un lien entre ce qui les intéresse à l'école et en dehors.
Voilà, alors c'est vraiment toute une panoplie en fait de qui concerne tout le caractère du jeune en question. Et puis ce que je voulais vous demander, c'est quand ça nous paraît vraiment difficile, on est au bout du rouleau, parce que bah ça se conjugue un petit peu parfois quand même avec une crise d'adolescence ou prolongée ou juste en pleine effervescence, et que on sait pas très bien comment s'y prendre, il faut quand même bien s'accrocher.
Oui, il faut s'accrocher et puis se faire aider des professionnels. Encore une fois, hein, les psychologues du travail, je vais avoir l'air de prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que c'est une discipline qui se développe depuis un petit moment maintenant et qui sont très aidants sur ce sujet-là, y compris pour les parents.
Bon, alors, il y a l'air du temps aussi par rapport à cette recherche que nos jeunes... Alors, peuvent finalement se dire bah, « oui, ça, c'est pas idiot, ça m'intéresse, etc. » Et puis, parfois, ils sont intéressés par des choses, ils en parlent à un professeur, et patatras, le prof, ou quelqu'un d'autre, d'ailleurs, lui dit « ah, mais mon pauvre, ça, c'est tout bouché !» Ou alors « mais ça, ça n'a aucun avenir !»
Oui, alors je pense que si on raisonne aujourd'hui uniquement débouché, on ne fait pas grand-chose. À longueur d'année, ça fait 15 ans que je fais ce métier, je vois des personnes qui vont s'orienter vers des métiers qui n'ont pas a priori de débouché, mais qui à force d'avoir travaillé le sujet, d'avoir rencontré des tas de personnes, vont se créer un petit réseau et puis vont tomber sur l'opportunité qui va faire que le projet devient réalisable. Et donc je pense qu'il ne faut vraiment jamais laisser tomber.
En clair, il vaut mieux s'adapter à son projet que s'adapter au monde tel qu'on imagine qu'il est, en plus.
Oui, c'est ça. C'est toujours une espèce de compromis entre sa vocation et ce qui nous appelle, et puis la réalité. Et c'est le meilleur compromis entre les deux. Si on veut bien s'y atteler, qui pourrait être réalisé? Moi, je vois ça à longueur d'année. Alors, on n'est pas dans l'orientation, on n'est pas dans la psychologie, on est dans la philosophie. Mais quand on est vraiment branché avec son désir et sa vocation, eh bien, ça crée une sorte de synchronicité qui appelle les opportunités.
Oui, et puis c'est d'autant plus important que ce qui est certain, c'est que les jeunes qui sont comme ça en recherche sont d'abord en recherche de sens et ils veulent pas faire n'importe quel boulot pour n'importe quoi.
Oui, bien sûr. Ouais. Aucun humain ne veut faire des choses qui n'ont pas de sens, qui sont absurdes. Et ça, c'est valable pour les jeunes et les moins jeunes.
Alors justement, les moins jeunes, c'est une question qu'on va aborder dans la deuxième partie de notre émission après cette petite interruption.
RCF Nord-de-France, toujours plus proche de vous. RCF Nord-de-France, vie de famille, Lorraine Lapara.
Et avec mon invitée Valérie Poubelle, nous parlons de l'orientation professionnelle, comment la réussir, et puis au cours de notre vie, comme on l'a dit en introduction, eh bien il y a des accidents de parcours ou alors tout simplement on sent qu'on n'est plus fait pour le travail dans lequel on s'est engagé. Et eh bien, une réorientation est peut-être à l'ordre du jour. Alors Valérie Poubelle, est-ce qu'une réorientation professionnelle, ça a un peu les mêmes bases qu'une orientation, à savoir les goûts, les compétences, ou est-ce que vous procédez autrement? Comment ça se passe?
Alors sur une réorientation professionnelle, on travaille sur donc le nouveau projet professionnel en partant de 4 grandes pièces de puzzle que sont les savoirs, les savoir-faire acquis dans la carrière professionnelle, que sont les valeurs aussi. Hein, c'est important de faire le clair sur ces valeurs.
Qu'est-ce que vous entendez par valeurs?
Alors les valeurs sont les références qui nous guident tout au long de notre vie, qu'on a reçues de nos parents, qu'on reformate en général à sa mesure. Et puis on peut les enrichir aussi par d'autres valeurs en fonction des expériences qu'on a pu mener. Donc par exemple, si on travaille dans la finance, on aura intérêt à aimer jouer avec l'argent et considérer que l'argent n'est pas une mauvaise chose. Par contre, si on veut travailler dans la finance en n'aimant pas l'argent, on va avoir des problèmes si on préfère les relations sociales, si on préfère l'humanisme et l'humanité. On va avoir des difficultés à s'intéresser uniquement au monde de la finance.
Mais si je vous entends bien, c'est justement parce que parfois le métier qu'on exerce, alors que ce soit celui de la finance ou d'autres choses, parce qu'il y en a plein d'autres, mais eh bien nos valeurs se sont affinées avec notre avancée dans la vie, et puis ce qui nous paraissait tout à fait adéquate quand on avait 25 ans, bah, à 35 ans, c'est plus du tout ça.
Tout à fait. On peut avoir envie de travailler dans la finance à un moment donné de sa vie en considérant que ça sera quand même confortable de très bien gagner sa vie, puis se rendre compte que ça ne fait pas partie de nos valeurs fondamentales. Et donc, du coup, on va avoir envie de se réaliser. Plus on avance dans sa vie professionnelle et sa vie tout court, et plus on va vers plus de réalisation. Alors, plus de réalisation, ça veut dire aussi nourrir davantage ses valeurs. Et en effet, souvent, on a de façon cyclique des réorientations comme ça, tous les 5 ans, 10 ans, 20 ans, parfois au bout de 30 ans pour certaines personnes. Et les valeurs, ça va être une espèce de repère important, donc ça va être la deuxième pièce de puzzle.
Oui.
La troisième pièce de puzzle étant les motivations au travail, ce qu'on aime faire, pas faire, avec qui on aime travailler, avec qui on n'aime pas travailler, dans quel type d'environnement. Et puis, la dernière pièce de puzzle, il n'y a pas vraiment d'ordre. Hein, on va
bien sûr, de toute façon, ça fait un tout.
Voilà, ça fait un tout. On va travailler sur les savoir-être acquis, donc ce qu'on appelle les compétences génériques, les compétences liées à genèse, liées à l'histoire de vie. Hein, et grâce à des tests, en général, les psychologues repèrent ça. Et une fois qu'on a ces quatre grandes pièces de puzzle, donc les savoirs et les savoir-faire, les valeurs, les motivations et les savoir-être, on va pouvoir construire un projet professionnel d'évolution qui va s'accrocher avec la réalité du marché du travail. Donc ça va être aussi là, c'est comme pour les jeunes, la confrontation entre tous ces acquis et la réalité du marché qui va nous permettre de construire une orientation professionnelle avec un plan d'action en termes de formation, de validation d'acquis, d'expérience, et puis aussi de repérage sur les métiers qui peuvent nous intéresser ou les missions qui peuvent nous intéresser.
Alors parfois c'est, bien sûr, comme pour les jeunes qu'on évoquait tout à l'heure, parfois c'est assez clair, en définitive, je sais très bien que je ne veux plus faire ça. Par contre, je suis attirée par tel domaine ou par tel type de métier. En revanche, certaines personnes, et c'est sûrement pas une critique, mais se sont engagées dans... Bon, elles se sont un peu laissées porter par les flots, on va dire. Et puis, malheureusement, ce qui arrive couramment de nos jours, c'est-à-dire un accident professionnel du genre licenciement économique ou Dieu sait quoi. Et puis il n'y a pas franchement de projet. En fait, on est à sec. Comment on fait dans ces cas-là ?
Alors, dans ces cas-là, dès l'instant qu'on a 5 ans d'activité professionnelle en CDI, on a de plein droit l'ouverture à ce qu'on appelle un bilan de compétences pris en charge par les financeurs de la formation professionnelle. C'est 24 mois en CDD et c'est donc 5 ans en CDI. Donc c'est toujours possible de faire prendre en charge un bilan de compétences. Donc dans le monde de la fonction publique, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Il faut une dizaine d'années d'expérience professionnelle, mais c'est toujours possible.
Et alors un bilan de compétences, même si les mots en eux-mêmes évoquent un petit peu quelque chose, c'est quoi au juste ?
C'est justement ce moment où on va se poser sur sa carrière et où on va réfléchir donc à ces quatre dimensions dont je parlais tout à l'heure, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, les motivations, les valeurs, et où on va pouvoir commencer à construire un nouveau projet. Donc un nouveau projet qui sera dans la prolongation de la carrière habituelle ou un projet d'évolution nouveau qui correspond plus à la personne et ce qu'elle a envie de faire au moment, un moment dans sa vie professionnelle où elle a envie de changer ou faire carrément autre chose.
Oui, mais ça, comme je disais, c'est un petit peu quand c'est clair pour la personne, et puis ce qui est un peu plus compliqué, c'est quand elle est un peu dans le flou.
Justement, quand c'est dans le flou, ben c'est le moment ou jamais. Le bilan de compétences, c'est vraiment utile quand on est dans le flou, et j'ai envie de dire, plus on est dans le flou et plus ça sera utile.
Oui, ça, c'est
ça sert vraiment à ça, parce que le repérage, c'est évidemment pas la personne toute seule qui le fait, c'est en étant accompagnée, et c'est justement quand c'est flou que c'est intéressant.
Voilà, et qu'on peut en retirer beaucoup de choses. Mais alors, ce qui m'a intéressée dans ce que vous dites là, vous dites, on évoque les quatre gros morceaux du puzzle là, mais j'ai pas entendu parler des difficultés, parce que parfois aussi, si on a un accident professionnel, c'est parce qu'on est tombé sur un os ou qu'on a des difficultés personnelles ou professionnelles qui nous sont propres. Et est-ce que c'est pas le moment justement de les mettre au jour ?
Oui, c'est le moment de faire un point sur sa carrière et sur sa vie. Et c'est pour ça qu'en général, dans l'équipe des professionnels auxquels on fait appel dans les bilans de compétences, il y a toujours un psychologue qui pourra venir aider, ou le conseiller lui-même en gestion de carrière est formé à ça. Et on intègre toujours dans la réflexion professionnelle la dimension personnelle. Parce qu'un adulte en réorientation, c'est pas comme un jeune qui sort du baccalauréat. Tout n'est pas forcément possible. Et on est bien obligé de composer avec les contraintes de la personne en termes ou contraintes physiques ou contraintes financières ou de contraintes, une personne qui élève des enfants seuls par exemple, des contraintes familiales, des contraintes matérielles. Donc tout ça, c'est tout l'objet assez passionnant d'ailleurs de cette équation à résoudre.
Ça doit être passionnant et j'ai pas entendu les contraintes psychologiques, parce que parfois on est assez attiré vers un monde, c'est possible, et puis en fait notre caractère ne nous permet pas, ou non, vous parliez de capacité physique, mais parfois c'est peut-être j'ai bien envie de travailler dans le monde du social, mais sur le plan relationnel, je ne suis pas franchement ouverte, peut-être que ça ne va pas coller.
Et en fait, quand on fait le travail de repérage, eh bien, c'est cette maturation et c'est tout le professionnalisme du conseiller en gestion de carrière ou du psychologue qui va aider la personne à en venir elle-même à ces conclusions-là en étant guidée. Donc, c'est vraiment un accompagnement. On n'est pas sur un conseil d'orientation, on est sur un accompagnement dans une réflexion. Et j'ai envie de dire, ça va se faire presque un petit peu naturellement. En ayant travaillé sur les valeurs, en ayant travaillé sur les savoir-être, on arrivera un peu seul, entre guillemets, seul et pas seul, puisqu'on sera accompagné, à la conclusion que le social, c'est pas pour nous tout à fait.
C'est ça, c'est à force de regarder justement avec une personne qui peut-être nous reflète des choses que nous ne sommes pas capables de discerner nous-mêmes, parce que ça, c'est bien difficile souvent. Alors, une fois qu'on a fait ce bilan de compétences, qu'on a nommé les quatre pièces du puzzle, etc., etc., eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Est-ce qu'on va vers de la formation? Comment on fait?
Alors, tout est possible. Ou on va analyser le marché de l'emploi et on peut être accompagné sur l'analyse de des annonces, des offres d'emploi par le conseiller. Ou bien on va travailler sur une validation d'acquis et d'expérience. C'est-à-dire qu'on va avoir un objectif professionnel et on va chercher à atteindre cet objectif par différents moyens. Donc ça peut être une validation d'acquis d'expérience si c'est nécessaire. Du coup, on va réfléchir à quelle est la meilleure validation d'acquis et d'expérience. On va regarder quelle est la meilleure formation. Est-ce que ça vaut le coup d'investir un an en formation par rapport à l'objectif visé? On va comme ça être dans toute une analyse de l'investissement nécessaire et le retour sur investissement, si je puis dire, en termes d'énergie psychique, physique et de moyens financiers mis à disposition.
Oui, alors les personnes qui sont dans ces phases-là, qui sont bien compliquées, parfois je suppose que vous en recevez qui sont particulièrement découragées. Est-ce qu'il est possible de se sortir de situations, qui paraissent vraiment inextricables?
Oui, alors en fait, le fait de faire ce travail de repérage sur sa carrière et ses acquis, ça va vraiment donner confiance en soi, parce que tout le monde a de la richesse, quels que soient les individus, il y a toujours une richesse qui est là.
Entendez-le bien, tous ceux qui nous écoutent.
Ceux qui sont découragés, en général, c'est parce que soit ils n'ont pas conscience de cette richesse, soit c'est parce qu'ils se font un scénario un peu catastrophique sur la suite. Et donc tout le travail, c'est vraiment de voir quelle est la richesse à disposition et quelles sont les possibilités sur le marché du travail ou dans d'autres orientations professionnelles. Et là, c'est aussi le travail du conseiller, d'aider la personne à pouvoir connecter un peu tous ces éléments entre eux et de redonner une ouverture sur un horizon du possible. Hein. C'est vraiment le travail qui est passionnant, justement.
Oui, ce qui est passionnant aussi, c'est que, eh bien, on est obligé vraiment de travailler en profondeur et qu'on ne peut pas s'imaginer qu'on va trouver un projet clé en main. Ça, ce n'est pas possible.
Non, non. Un bilan de compétences, c'est au minimum entre 12 et 24 heures de travail. Donc, ça demande quand même pas mal de temps.
Et ça, c'est vraiment le petit morceau.
C'est ça, ça c'est le travail avec le conseiller. Après, il y a le travail entre les séances qui est guidé par le conseiller.
Très bien, ça fait beaucoup, beaucoup de travail, mais finalement, c'est un travail sur soi pour réintégrer ou réintégrer le monde professionnel. Est-ce qu'on peut dire que dans le monde professionnel, il y a une bonne voie et une mauvaise voie pour soi ou...
Oui, alors on essaye, le bilan de compétences, c'est vraiment un réducteur d'incertitude et de risque. Donc ça va réduire au maximum du possible. En même temps, le risque zéro n'existe pas. C'est pour ça qu'en général, on fait 3 scénarios d'évolution. Un plan A, un plan B, un plan C, pour ne jamais être en panne de projet, quoi qu'il arrive.
Eh bien, ça, c'est vraiment une très bonne piste de pouvoir évoquer plusieurs scénarios de façon à ne pas s'enfermer dans une solution idéale et de pouvoir se réorienter professionnellement. Merci Valérie Poubelle.
Merci, c'est avec plaisir.